it feels like. You're telling me the lies of me. You're breaking my heart, you see. Even your friends all know the way you hurt me so. I can forgive you for the wrong that you've done. Oh, in my heart and in my mind, you're the only one for me, and this won't change. Things I want you to put a smile on your face and say you be true. I can't let you go feeling the way that I do. And after all is said and done, I'll still be loving you. And this won't change. I said this won't change.
This won't change.
I say you're in love with me.
Il est 5h en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
RFI Matin.
Et RFI Matin, on commence avec un journal international. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Clotilde et bonjour à tous.
À la une, la guerre au Moyen-Orient. Plusieurs pays du Golfe haussent le ton et fustigent cette guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran.
Et le sultanat d'Oman parle même de la plus grande erreur d'appréciation de l'administration américaine. Donald Trump temporise et demande à Israël de cesser ses attaques contre des sites énergétiques iraniens. Les détails dans un instant.
Emmanuel Macron lui appelle à la désescalade.
Et déclare que la France est prête à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, mais seulement une fois que la situation serait plus calme, évoquant une possible mission onusienne. Emmanuel Macron, qui s'est exprimé aussi sur la situation au Liban depuis le Conseil européen qui avait lieu hier, vous l'entendrez. Dans cette édition également, Vincent Bolloré renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption d'agents publics étrangers. La justice soupçonne son groupe d'avoir conseillé à moindre coût les campagnes de Fornia Simbé et d'Alpha Condé, candidat victorieux à la présidence au Togo et en Guinée. Et puis ce sont plus que des stars, des méga-stars. Le retour ce matin du boys band sud-coréen BTS. Il sort son 5e album studio ce matin.
Les dirigeants saoudiens et koweïtiens mettent en garde contre une escalade des attaques iraniennes dans le Golfe.
Oui, alors qu'hier, l'Iran a poursuivi ses frappes sur des infrastructures énergétiques dans le Golfe. Des drones ont touché une raffinerie saoudienne, deux autres au Koweït, au lendemain de dégâts majeurs causés sur le premier site mondial de gaz naturel liquéfié au Qatar. Attaque en représailles à une frappe israélienne qui a visé South Pars, la plus grande réserve de gaz au monde, un site offshore partagé par l'Iran et le Qatar. Les pays du Golfe qui hausse le ton vis-à-vis d'Israël, accusé d'avoir entraîné les États-Unis dans la guerre. Julien Coquel-Rouhem.
C'est le sultanat d'Oman qui fustige le plus durement l'agression israélo-états-unienne contre l'Iran. La plus grande erreur d'appréciation de l'administration américaine, selon les mots de son ministre des Affaires étrangères et ancien médiateur entre Washington et Téhéran. Dans une tribune publiée par l'hebdomadaire britannique The Economist, Bader al-Busaidi accuse Donald Trump de s'être laissé entraîner dans la guerre par Tel Aviv, pile au moment où un accord sur le nucléaire iranien semblait réellement possible. Des propos qui font écho à ceux du patron du contre-terrorisme américain Joe Kent. En démissionnant mardi dernier, il a reproché à Donald Trump d'avoir déclenché le conflit sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Tel Aviv est donc désormais pointé comme le principal responsable du chaos et de ses conséquences sur l'économie des pays du Golfe. Le président américain affirme que plus aucune attaque ne sera menée par Israël contre le champ gazier iranien de South Pars, dont le bombardement a déclenché une riposte féroce de Téhéran sur la région. Pas sûr que cela suffise à rassurer les marchés qui s'emballent et des capitales arabes entraînées malgré elles dans la guerre.
Et après la prise de parole de Donald Trump, Benjamin Netanyahou a lui déclaré qu'Israël avait agi seul concernant cette attaque de South Pars Il a confirmé que Donald Trump lui avait demandé de cesser ses attaques, ce qu'il s'est engagé à faire.
Emmanuel Macron a lui appelé hier à la désescalade.
Il a déclaré que la France était donc prête à prendre la responsabilité d'un système d'escorte des navires dans le détroit d'Ormuz, toujours paralysé, mais seulement une fois que la situation serait plus calme, évoquant notamment une possible mission onusienne. Nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron sous pression de Washington pour sécuriser le détroit d'Ormuz. La France à la manœuvre dans la guerre que mène Israël contre le Hezbollah libanais. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est attendu en Israël aujourd'hui, au lendemain de sa visite à Beyrouth. Hier, Emmanuel Macron a lui rappelé les priorités de la France dans le dossier libanais.
Quelle est notre position sur le Liban ? Nous croyons dans la souveraineté, l'intégrité territoriale du Liban, et nous soutenons les décisions et les expressions très courageuses du président Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam et de son gouvernement, qui ont très clairement rappelé que le monopole des armes était aux forces armées libanaises et qu'il fallait donc que le Hezbollah rende ses armes. Mais on ne pense pas que la lutte contre le Hezbollah ou soustraction de ses armes puisse se faire par une puissance tierce. Et donc nous pensons que l'opération militaire terrestre israélienne comme les bombardements ne sont pas adaptés et même sont inacceptables au regard du droit international comme de l'intérêt même et des Libanais et de la sécurité d'Israël dans la durée.
Emmanuel Macron au micro de Daniel Valot au Conseil européen qui avait lieu hier. Les 27 qui ont appelé par ailleurs à tirer les leçons de la crise migratoire de 2015 à 20 afin d'éviter une situation similaire avec la guerre en cours au Moyen-Orient. Et puis en dépit des pressions, les dirigeants européens ne sont pas parvenus à faire fléchir Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui refuse toujours de débloquer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Et ce malgré l'intervention en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
C'est une enquête, Jeanne, menée par le quotidien israélien Haaretz et le site d'investigation Balkan Insight.
Une enquête qui révèle que les ventes d'armes serbes en Israël ont explosé ces deux dernières années, à tel point que la Serbie serait devenue le troisième fournisseur d'armement à l'État hébreu, et ce, en dépit des crimes de guerre commis par l'armée israélienne à Gaza. Correspondance, Laurent Rouy.
Si la Serbie vendait moins de 4 millions d'euros de munitions à Israël en 2023, ce volume a été multiplié par 12 en 2024, avant d'augmenter encore en 2025 pour atteindre 55 millions, soit une augmentation de 1700%. Produit phare de ces ventes, les obus de calibre 155 dont l'armée israélienne a fait grande consommation à Gaza. En juin dernier, le président Aleksandar Vučić se vantait que la Serbie était le seul pays européen à vendre des munitions à Israël. Quelques semaines plus tard, sous la pression internationale, Vučić déclarait cesser ses ventes. Mais les témoignages indiquent que ce commerce aurait repris en février, peu avant la guerre au Moyen-Orient. Depuis, deux avions d'une compagnie aérienne israélienne spécialisée dans le transport de matières dangereuses ont effectué 9 rotations entre les deux pays à destination d'une base militaire israélienne. Aucune des parties impliquées n'a souhaité commenter ces vols. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
RFI, il est 6h07 à Paris. Il sera jugé en décembre pour corruption dans l'affaire dite des ports africains.
Et l'homme d'affaires d'extrême droite, Vincent Bolloré, milliardaire, influent, propriétaire de plusieurs médias en France, doit être jugé notamment pour corruption d'agents publics étrangers. Les faits allégués remontent à 2010 pendant les scrutins présidentiels au Togo et en Guinée. Vincent Bolloré devra répondre de son rôle dans les agissements de certaines filiales de son groupe qui auraient notamment fourni des prestations pour ses campagnes à un prix sous-évalué. En échange, le groupe Bolloré aurait obtenu l'exploitation de deux ports stratégiques, celui de Lomé et de Conakry. Cela fait presque 12 ans maintenant que Vincent Bolloré est visé par une enquête à ce sujet. Retour sur cette affaire avec Loïc Hall.
C'est en 2013 que l'enquête s'ouvre suite à un signalement du ministère de l'économie. En 2018, Vincent Bolloré et deux hauts responsables de la filiale du groupe sont mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance et d'autres graves accusations. En 2021, Vincent Bolloré reconnaît les faits qui lui sont reprochés dans le cadre d'une procédure appelée CRPC ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le but de cette procédure, éviter un long procès pénal. Il Il accepte également de payer une amende de 375 000 euros. Mais il ne s'en tire pas comme ça. Le tribunal judiciaire de Paris refuse de valider l'accord, ouvrant la voie à un procès conventionnel. Depuis, ses avocats ont multiplié les recours pour faire annuler la procédure. Mais le 6 juin 2024, le parquet national a finalement requis un procès contre le milliardaire pour corruption d'agents publics étrangers au Togo et complicité d'abus de confiance au Togo et en Guinée.
Lou et Cal. En plus bref, en Tunisie, la militante antiraciste Sadia Mosba, condamnée à 8 ans de prison, 100 000 dinars d'amende, soit 30 000 euros dans un jugement rendu hier soir. Les avocats n'ont pas encore eu accès aux détails du jugement. Il est difficile de connaître les motifs de la condamnation, mais elle a été jugée sur la base d'accusations de malversation financière. Ce verdict est un coup dur de plus pour ses proches et la société civile qui travaille sur la question migratoire pour laquelle Sadia Mosba était particulièrement engagée.
C'est le premier procès qui se tient en France concernant le génocide de la minorité yézidi.
Un génocide perpétré en Syrie par le groupe État islamique. Depuis lundi, le djihadiste français Sabri Essid, cadre du groupe État islamique, est présumé mort et jugé par défaut par la cour d'assises de Paris pour génocide et crimes contre l'humanité et notamment l'asservissement de 3 femmes yézidis et de leurs enfants. 2 d'entre elles sont venues à la barre cette semaine, dont Avine, pseudonyme choisi par cette femme d'une 30aine d'années, au témoignage glaçant. Compte rendu d'audience avec Laura Martel.
Avine avait 20 ans, un mari maçon, une fille de 2 ans, nous étions heureux, dit-elle. Replongée seule dans l'abîme qui s'ouvre en août 2014, noir comme le drapeau de l'EI qui attaque alors son village est trop dur, alors le président reprend ses mots aux enquêteurs et ensemble ils retissent le fil. La vaine tentative de fuite dans les montagnes, les premières exécutions, puis les déplacements incessants et à chaque escale, ces combattants qui viennent se servir en femme, ses cousines emmenées de force qu'elle ne reverra plus, tout comme son mari. Se couper les cheveux, ne plus se laver, Avine se souvient des stratagèmes de certaines pour échapper au pire. L'une se jette du deuxième étage. La voilà à des résorts, exhibée sur un marché aux esclaves, vendue aux enchères. Son premier acquéreur a misé une arme et une voiture. Des propriétaires, elle en aura 7, d'homme en homme, de viol en viol. Le second, c'est le brutal Sabri Essid, adepte de prolonger le calvaire en prenant du Viagra. Un jour, il menace de la séparer de sa fille, elle se taillade le bras, alors il n'en veut plus, l'envoie dans un salon de beauté. Maquillage, robe décolletée, sur l'écran de la salle, une photo d'Avine avec sa fille, celle que le terroriste poste sur Telegram pour les revendre. Et puis, après 2 ans et demi d'enfer, leur fuite en niqab de nuit à travers les montagnes. Si elle est venue jusqu'à Paris raviver ses terribles souvenirs, c'est pour la justice, souffle Avine, dont les mots viennent d'ancrer un peu plus le génocide des yézidis dans l'histoire.
Et Laura Martel.
Plus que des mégastars, ils sont, Jeanne, un produit économique, hein, carrément, on peut le dire, le retour du boys band sud-coréen BTS.
Oui, le boys band sort son 5e album studio ce matin et c'est un sacré événement dans le pays car c'est le premier depuis 2020, 14 morceaux au total. L'attente est grande autour de la réunion du Septuor qui rapportait à la Corée du Sud, Clotilde, plusieurs milliards d'euros par an avant sa pause. BTS qui tiendra son concert gigantesque demain à Séoul. Et puis on va parler de théâtre. Elle est jouée en ce moment à Paris. La pièce Au bout de ma langue, écrite par Simon Grandjean, raconte le déracinement, l'attachement à sa terre et la difficulté à se reconstruire dans une nouvelle culture par un angle bien précis, celui du langage. C'est l'histoire d'un petit garçon, Taïm, qui arrive en France à 9 ans après avoir fui la violence de son pays, agressé par une langue qu'il ne comprend pas, incapable de se faire entendre. Taïm plonge alors dans le mutisme, une pièce sensible, Léa Boutin-Rivière, sur le déracinement et l'ouverture à l'autre.
L'acteur Omar Salem porte seul sur scène l'histoire de ce petit garçon muré dans le silence, qui n'est pas sans rappeler la sienne, lui qui est revenu en France après avoir passé sa petite enfance entre la Jordanie et l'Algérie.
Ma première langue, ça a été l'arabe. Ma perception du monde, elle était un peu comme celle de Taïm. C'était du bruit, quelque chose qui me pesait. Et moi, je voulais juste m'enfermer dans mon cocon familial avec ma culture.
Pour lui, comme pour des milliers d'autres personnes, l'arrivée en France ressemble à une plongée dans un bouillon sonore impénétrable. Tal Revni, la metteuse en scène.
Il y a beaucoup des parties en arabe qui sont pas traduites et ça fait exprès. On se met dans la place de Taïm et on comprend pourquoi cette silence est arrivée en lui.
Au bout de ma langue explore donc la violence de cette incompréhension permanente, mais aussi la peur de perdre son identité à travers sa langue.
Quand tu cumules notre langue, il y a un parti de toi qui doit laisser la place. Et tout ce qu'on est devenu dans notre pays d'avant, c'est comme si ça enlève notre personnalité parce qu'on ne peut plus être rigolo, cynique.
Au bout de ma langue appelle à aller vers l'autre, à comprendre sa culture, mais elle ne se contente pas de prescrire. Écrite par un scénariste français, portée sur les planches par une metteuse en scène israélienne et jouée par un acteur d'origine palestinienne, la pièce va plus loin, elle montre l'exemple.
Léa Boutin-Rivière, Au bout de ma langue, pièce donc de Simon Granja et Tal Reveni, jouée ce soir et demain au Maïf Social Club à Paris, et puis en avril dans le cadre du festival La Voir en Famille, la metteuse en scène Tal Reveni, qui est notre invitée culture aujourd'hui.
Tout à fait, merci beaucoup Jeanne Bartoli. 5h13 en temps universel, la guerre au Moyen-Orient. Trois semaines de frappes israélo-américaines et de ripostes iraniennes. Et c'est dans ce contexte que Téhéran marque aujourd'hui le passage de l'hiver au printemps. Nowruz, c'est le nouvel an persan.
On essaie de garder espoir. Il se dit que lorsque l'on commence une année dans tel ou tel état d'esprit, le reste de l'année sera pareil. Alors j'espère qu'on recevra de bonnes ondes si nous commençons la nouvelle année de manière positive.
Reportage de Siavosh Gazi à écouter dans le prochain journal international dans une heure. Et puis dans RFI Matin, les conséquences économiques de cette guerre qui fait planer le risque d'une crise énergétique mondiale après des frappes sur des infrastructures de production de gaz. On va essayer de comprendre les enjeux avec notre invitée Anne-Sophie Corbeau, chercheuse au Center on Global Energy Policy à l'Université de Columbia aux États-Unis. Rendez-vous vers 6h15, temps universel. On va aussi parler ce vendredi 20 mars des élections municipales en France, à 2 jours du second tour. Et puis beaucoup de culture, on vient de le dire, avec ce retour d'abord de BTS, le groupe sud-coréen qui vient de sortir un nouvel album. On va en parler évidemment dans nos journaux. Un hommage aussi à la langue française en ce 20 mars, journée internationale de la francophonie, avec 2 artistes pour en parler ce matin. Le poète Nimrod, notre invité dans une demi-heure, et puis la poétesse congolaise Donso Sémé.
La langue française et moi, c'est une histoire d'amour. J'aimais beaucoup juste les jeux de mots, comment ça pouvait sonner, les figures de style. Je trouvais que c'était très agréable d'utiliser la langue comme ça.
Un œil sur le cadran, attaché à la base, sur du papier carcan, nous sommes partis d'une case.
caractéristiques humaines, comme beaucoup trop le craignent, cousin. La religion n'est pas le problème, les esprits s'arcutent entre sans flemme. Les hommes sont faits de jalousie, de pouvoir et de haine.
Ok, ça c'était les quatre premières mesures que j'ai grattées de ma vie. Je n'avais que 17 ou 18 piges, un jeune de plus recherchant terre d'asile. Pourquoi la zigue, ça vieux, je n'en ai pas une miette d'idée. Ça fait partie des mystères de la vie, adieu de te l'expliquer. Moi je t'avoue qu'à cette époque, je cherche pas à comprendre. J'écris tout ce que m'inspire, je ne sais quoi, je laisse parler mon ventre. Première claque, premier tout, première tradition, première relation de couple, premier amour, première trahison. Première fois que je comprends à quel point je peux être sombre. Mes premières punchlines naissent lorsque sur moi les cieux s'effondrent. Ma plume rend l'or, là, elle suce à outrance. Moi je veux guérir, mais elle me réclame de la souffrance. Ne cesse de me dire que mes blessures sont belles, que ce n'est qu'en trempant dans mon sang qu'elle se rassure qu'on l'aime. Alors je la laisse faire, je suis loin du studio et des scènes. Je sais pas ce que c'est, je m'en tape tant que mon stylo fait les siennes. J'éclate des brodes dans tous les sens, je leur fous les trempes et je kiffe ça. Commence à me sentir tout étrange quand se déclenche des freestyles. Oui, je kick à vivre petit à petit, détecte les techniques bizarres. Vite la crise à l'île de frise, la tyrannie, elle stresse, elle est très irritable. Et puis taf d'un petit gars au grimace à 10 balles. Visage amical qui pâlit, s'abîme dans une grisaille abyssale. Un cicatrisable, je crie ça pendant que ma bouche se vide. J'écoute en boucle Arsenic FF, Shuriken, l'album où je vis. Et pour les quelques voix qui avaient des platines, Mike, la palme d'or de la face B, je crois que c'était Nazis like. Première mix TPX assassine, je me rappelle sport de sang quand un procès. Y avait 45 têtes autour de la cabine, regard vif, mais y avait 16 pets de base. Parce qu'on pratiquait le même art en marge des masques, on avait choisi les mêmes espèces d'armes. C'était la passion pour la passion, pas de pif, pas de net, buzz clip, pas de fan et pas de page artiste. Mais rien à battre, on vivait sans ça. Limite au tout départ pour moi, quand quelqu'un me disait frère, j'adhère, c'était impensable. La plupart des acteurs de cette époque ont sauté le pas de la zig, le taf, la fuite, le cash, la mif, le côté aléa de la vie. Et moi je suis là, j'écris ces mots vides. Des fois j'ai l'impression de jouer à vie, ma vie d'un fossile. Je sais que ce sera bientôt mon tour de m'éclipser, mais j'ai si peur de l'après, peur de me dire que j'aurais bien mieux fait de résister. Ouais, je veux pas briller quand je m'ouvre. À l'heure où je parle, ma carrière a déjà un pied dans le gouffre. Avant que je parte et que j'ai une classe l'affaire, il faut d'abord que j'apprenne à défoncer les portes du futur avec une marche arrière. Je répète, je veux pas briller quand je m'ouvre. Je sais qu'à ce stade, ma carrière a déjà un pied dans le gouffre. Avant que les vieux ne se cassent une classe l'affaire, ils vont d'abord t'apprendre à défoncer les portes du futur avec une marche arrière.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net. Principactif, le mix des cultures.